Le Stabat Mater de Pergolèse, c'est un oratorio, donc une œuvre qui habituellement n'est pas portée à la scène. C'est ce qu'on peut appeler un chef-d'œuvre absolu. Il a été composé par Pergolèse, qui était très jeune quand il a composé. C'était pratiquement avant sa mort, en fait, 2 mois avant sa mort. Il est mort très jeune, à 26 ans. C'est l'œuvre la plus connue, je pense. Le texte parle d'une mère qui regarde la mère du Christ souffrir de tout ce qui arrive à son fils. Donc il y a une mise en distance qui était intéressante pour nous, une situation d'observation en fait, et qu'est-ce que ça pouvait procurer, cette observation. Stabat Mater, ça veut dire la mère debout. Comment elle arrive à se relever malgré cette épreuve.
Vous avez en quelque sorte entaché cette sacralité en mettant en scène et à voir l'histoire de migrants.
En fait, la situation est effectivement celle-là. C'est un enfant qui meurt sous les yeux de sa mère. Et sa mère tient debout. Et c'est la situation du Christ en croix et de la Vierge. Mais c'est aussi, ça pose évidemment la question, quand on le met en scène, d'un enfant qui meurt d'une vie gâchée, d'une vie sacrifiée, et de la souffrance que ça génère. Donc, en fait, de cette pièce religieuse, peut-être on a laissé la religion de côté, on a gardé la sacralité pour la mettre au service peut-être de quelque chose de plus proche de nous, d'un être humain. Et effectivement, aujourd'hui, c'est quotidiennement que des enfants meurent en Méditerranée, mais aussi dans tout le parcours migratoire jusqu'à dans nos rues. Oui, on se sert de la puissance émotionnelle de ce Stabat Mater pour présenter cette expérience-là de la rencontre de ces migrants et de leur réalité.
Stabat Mater évoque donc la Vierge Marie, mais c'est quelque chose finalement d'assez christique, somme toute. Et on va même parfois vers... Il y a des images comme ça qui vont vers la passion.
Je n'ai pas cherché avec Caroline à mettre en scène des scènes religieuses, le Christ ou
non,
la Vierge,
mais
de fait, le Christ est un réfugié. Il naît dans une étable parce que ses parents sont dans un parcours migratoire et qu'ils ont été refusés à la porte d'une cité. Et c'est la vie et la mort d'un individu peut changer la face de la planète et le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est quotidiennement que des gamins naissent dans des squats, dans la rue, à nos portes. Et voilà, mettre en scène le parcours migratoire, c'est mettre en scène la violence. Et évidemment, ça a à voir avec ce qui se dit fondamentalement dans ce texte-là, dans cette musique-là. Si c'est pas particulièrement ni le Christ ni la Vierge, parce que moi je suis même personnellement pas chrétien, mais en tout cas la puissance de la sacralité, de l'imagerie religieuse, de l'émotion, de la spiritualité mise au service de l'homme, et c'est assez passionnant pour le coup de faire se rencontrer le sacré et le profane presque.
Parce que vous-même vous côtoyez énormément au quotidien de personnes un peu dans des situations un peu particulières.
Oui, on a un moment historique. Notre comportement aujourd'hui, de savoir comment on se comporte par rapport à l'arrivée de migrants qui vont aller en augmentant dans les années à venir, décide un petit peu de la suite de notre histoire. Est-ce qu'on se met en état de guerre en fermant les frontières et en refusant de, par exemple, loger des mineurs isolés, parce qu'étrangers, alors que c'est la loi en France, on est obligé de loger des mineurs, et ce n'est pas fait. Est-ce qu'on peut se tenir comme ça dans une position d'indignité par rapport à cette réalité migratoire? Parce que fermer les portes maintenant, ça veut dire demain, qu'est-ce qu'on fait quand ils seront non pas 100 000, mais plusieurs millions? C'est effectivement préparer un état de guerre. Donc notre attitude aujourd'hui par rapport à ça, c'est essentiel. Alors oui, de mon côté, je fais des trucs, mais je suis loin d'être le seul. Et ce qui est terrifiant, c'est que parfois la société civile prend en charge des choses que les pouvoirs publics devraient prendre en charge. Et ça c'est indigne.
Alors là, il y a le décor qui est en train d'être démonté en même temps, puisque le spectacle vient de terminer. Je le disais tout à l'heure, vous êtes à plusieurs à avoir fait ce spectacle. Alors comment est née cette association entre donc David Bobet, metteur en scène de théâtre, et le collectif Les Nouveaux Caractères, du fait de la musique baroque?
Alors Les Nouveaux Caractères, on fait effectivement de la musique. Après, il y a des concerts très classiques, des concerts symphoniques ou d'opéra, mais on fait aussi du théâtre musical. Voilà, donc on a déjà ce goût pour ça, on a déjà mis en scène plusieurs opéras. Et puis on a rencontré David qui nous a invités une première fois sur un de ses spectacles. On a été très heureux et donc on a eu envie de recommencer. Donc on l'a invité à notre tour. Et puis voilà, donc on a proposé cette œuvre qui a parlé très fortement à David et on est parti en création.
Alors sur scène, il y a d'autres artistes puisqu'il y a un danseur qui s'appelle Bobby Mfumu et un acrobate Salvatore Capello. Est-ce que c'est une rencontre également ?
Bobby Mfumu, je l'ai rencontré à Brazzaville. Il était tout jeune danseur. Je l'ai trouvé formidable et engagé dans plusieurs spectacles. Et puis la vie nous a un peu séparés. Et puis finalement, je l'ai retrouvé presque par hasard à Limoges. Et au moment où je faisais la distribution, il m'a semblé très pertinent de l'inviter pour venir interpréter ce personnage, cette sorte de roi de carton, de, à la fois le migrant, une espèce de Jésus-Christ contemporain, parce qu'il y a en lui une espèce de douceur, d'humanité, de poésie. Et puis il a une danse de création qui est complètement congolaise et absolument contemporaine, qui est assez remarquable et qui se lie très très bien en fait avec la musique ancienne, la musique baroque. Et c'est assez beau de voir ça. Et puis Salvo, qui était un jeune homme que j'avais rencontré à Turin, qui avait remplacé un acrobate qui s'était blessé dans un spectacle de cirque que je faisais. Et j'avais été fasciné par à la fois cette espèce de lumière qu'il y a sur lui, ses cheveux blonds, sa barbe, ce corps presque complètement blanc. Et puis c'est surtout sa capacité acrobatique au sangle, à tenir des positions qui sont qu'ont à voir avec le statuaire, avec toutes les positions des corps en douleur, des corps martyrs, pas simplement de Jésus-Christ, mais à peu près de tous les martyrs. Il suffit d'ouvrir la porte d'un musée des Beaux-Arts pour voir ce type de corps-là exposé. Il fait ça en l'air, enfin, il y a quelque chose de... Il amène la dimension sacrée très très fort, Salvo.
C'est ça, parce que vous parlez de corps prendre.
C'est moi qui en parle.
C'est vous ?
Oui, c'est vraiment cette idée de transmettre beaucoup par le corps. En fait, la parole, il y a le chant, évidemment. D'ailleurs, je rajoute qu'il y a Aurore Hugolin, mezzo-soprano, qui est voilà, une cantatrice magnifique, qui est donc avec nous. La parole qui est entendue, en fait, est celle des témoignages, celle de l'interview. C'est la seule parole qu'on entend dans le spectacle.
Et alors, en parlant d'incarnation, il y a aussi vous qui chantez, avec, presque avec vos tripes. On sent que, et c'est là on le retrouve puis finalement à la mère du Christ. On sent quelque chose qui vient vraiment des profondeurs. Enfin, et d'ailleurs, vous portez ce regard de mère, en quelque sorte, sur ce migrant et ce circassien.
Oui. Ben, oui, on est enfin, effectivement pris. Oui, en fait, on a travaillé avec David beaucoup à partir d'improvisation. Voilà, donc effectivement, la nourriture, elle est venue comme ça, petit à petit. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et puis, c'est vraiment ce qu'on appelle une création originale, en fait. Ouais. Donc, je n'imagine même pas le chanter autrement qu'avec mes tripes, ouais. Ce spectacle. Et c'est la même chose pour Aurore. Elle est bouleversée à chaque fois.
C'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur le plateau. Vous êtes trois, je pense, avec une violoniste.
Oui.
Mais on vous sent très présente.
Oui, je pense que la place de la femme, elle est aussi importante, parce que c'est évidemment que c'est compliqué de souffrir, mais c'est aussi compliqué de voir quelqu'un et quelqu'un qu'on aime souffrir. Oui. Et puis il y a une chose qui m'a frappée aussi, tout le travail qu'on a fait avec la journaliste, donc on a écouté beaucoup de Rush, d'interview, il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas une femme, alors qu'il y avait beaucoup de femmes sur le bateau, mais aucune n'a pris la parole. Et c'est venu résonner là quand on a travaillé en atelier artistique avec le foyer Adoma à Oulin, donc c'était des femmes, et on avait très envie que ce soit des femmes sur le plateau. La parole a mis du temps un petit peu à venir. Et puis ce qu'elles en disaient, c'était justement, bah oui, il faut qu'on parle plus. Les hommes, il faut qu'ils écoutent plus. Et nous, il faut qu'on parle plus. Donc d'elles-mêmes, elles sentaient bien qu'elles étaient muselées, en fait.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet Adoma ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, le projet Adoma, il s'est fait à Oulin. Parce que en fait, à Rouen, donc ça c'est plus David qui pourra en parler. Voilà, il y a eu des rencontres avec certains migrants, donc que David connaissait. Voilà. Et puis évidemment, c'était pas envisageable de les emmener avec nous en voyage. Ils sont dans une situation évidemment compliquée, précaire. Et puis voilà, ça fait partie du spectacle. Donc aller à la rencontre d'autres personnes. Malheureusement, il y en a partout, dans toutes les villes. Et il se trouve qu'il y a ce foyer à Doma, foyer asile aussi, qui est aux portes du théâtre. Voilà, un très beau travail avec des ateliers artistiques, avec Bobby qui est venu danser et faire danser, Sébastien aussi avec la musique, Sébastien
Desvins.
Ce sont
des gens qu'on voit.
Absolument. En fait, nous, artistes, on a travaillé en atelier avec eux. Elles sont très, très heureuses d'être avec nous sur scène. Donc ça nous rend d'autant plus heureux.
Quand on me demande de mettre en scène un concert, c'est nous dire cette musique-là qui est si émotionnelle. Enfin, on a tous, enfin, le Stabat Mater, on l'a tous un peu en nous, et on a tous, ça provoque des émotions assez incroyables. La démarche, c'était de se dire, mais quelles sont les images et quelles sont les émotions qu'un musicien convoque pour pouvoir jouer cette musique-là. Donc le geste scénographique, il est tout bête, c'est d'écarter l'orchestre, de faire un espace en son centre et d'essayer de convoquer des images qui sont ancrées dans le réel de la vie de ces musiciens-là qui vivent concrètement aujourd'hui et qui donnent un peu leur être pour servir cette émotion-là. Et ce faisant, cette émotion devient non pas un discours sur la migration, un discours qui serait politique, ou qui serait frontal, ou qui serait descendant sur le phénomène migratoire, mais c'est bien plus le partage d'une émotion autour de cette problématique et Cette musique-là laisse le temps aux spectateurs, aux spectatrices. Ces images-là n'imposent pas un discours, mais laissent le temps et l'occasion à chacun de construire son propre discours, d'être sur un travail de construction critique des émotions ressenties. Et à partir de cette construction-là, de ce discours-là, chacun repart avec ce à quoi sert le théâtre, quoi. Le théâtre, c'est un prétexte qui offre le temps de réfléchir ensemble. Et ça fait que les gens sortent peut-être en étant plus intelligents, non pas parce qu'ils ont appris quelque chose des artistes sur scène, mais parce qu'ils ont pris le temps collectivement de réfléchir à un sujet. Et quand on quitte l'école, ces endroits-là où on réfléchit collectivement à un sujet, ils n'existent plus. La politique devrait nous permettre des endroits de démocratie et de pensée. Les médias, peut-être, pourraient nous permettre de nous offrir le temps de penser collectivement. Il n'en est rien. Le théâtre a encore cette espèce d'endroit de résistance à la pensée critique, à la responsabilité individuelle et au sentiment d'appartenance à un collectif. Et c'est pas pour rien que le théâtre et la démocratie s'inventent à peu près au même moment et à peu près au même endroit, parce qu'il se joue quelque chose d'essentiel. Ça s'appelle la citoyenneté, quoi. Qu'est-ce que je ressens? Comment j'analyse ce que je ressens? Comment je pose un discours sur ce que je ressens? Et comment éventuellement j'agis sur ce que je ressens? Là où le monde dans lequel on vit cherche un petit peu à rétrécir la distance critique et nous fait croire que la réalité serait la réalité. La réalité serait qu'on ne peut pas faire face à la crise migratoire. C'est pas de la réalité, c'est des choix politiques. Lorsqu'on est spectateur, spectatrice de théâtre, lorsqu'on est citoyen, on peut mettre à distance ce qui nous est présenté comme du réel et se dire qu'est-ce que je ressens de cette réalité qui m'est présentée, comment je l'analyse, comment je peux agir dessus. Et alors peut-être que le problème ne sera pas la crise migratoire, mais la crise de l'accueil.
Le message final, ce serait peut-être, au lieu de fermer nos frontières, d'ouvrir la porte de notre cœur.
Moi, ça me va bien comme phrase finale.